Bonjour à tous, bienvenue dans Du grain à moudre d'été. Ce soir, l'Europe peut-elle se passer de la Russie ? Comme le vent a tourné depuis le sommet du G20 à Brisbane en Australie, c'était il y a 5 ans seulement, en 2014, Vladimir Poutine s'était retrouvé complètement seul, faute d'avoir à qui parler lors de cette réunion internationale où ses homologues l'avaient tous interpellé sur le conflit ukrainien, l'accusant de soutenir les séparatistes pro-russes, ce qu'il niait alors. Barack Obama avait parlé de menaces pour le monde, Angela Merkel appelait à des sanctions, le premier ministre canadien n'était pas même sûr de vouloir lui serrer la main. Ce fut trop pour Vladimir Poutine qui décolla tambour battant avant le communiqué final sans demander son reste. 5 ans plus tard, le vent a tourné donc. Petit vent nord-nord-est avec quelques rafales en cette fin de journée, nous dit la météo marine pour la crique de Brégançon où se situe le fort éponyme. Emmanuel Macron reçoit donc son hôte dans des conditions idéales en cette 12 journée du mois d'août. De quoi entretenir, comme le promet l'Elysée, un dialogue nourri et approfondi entre les deux chefs d'État qui permettent de mieux nous comprendre, de trouver des terrains d'entente et de converger sur l'essentiel. Au-delà de la novlangue diplomatique, que peut-on attendre de cette rencontre, dont le journal résumait à l'instant ce qu'il s'y est dit ? Que va rapporter à la France le fait de se poser en intermédiaire entre la Russie et le G7 qu'elle accueillera cette semaine ? Peut-elle convaincre la Russie de détourner quelque peu son regard de la Chine pour le poser plus souvent sur l'Europe occidentale ? Et le doit-elle ? L'Europe peut-elle se passer de la Russie ? Nous recevons 3 invités pour en parler ce soir avec nous en studio, Alia Stroganova, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au service russe de RFI et vous êtes et nous sommes en duplex de Caen grâce aux moyens techniques de France Bleu Basse-Normandie avec Galia Ackermann, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne et journaliste spécialiste du monde russe et ex-soviétique. Vous êtes l'auteur de votre dernier ouvrage, Le Régiment Immortel, la guerre sacrée de Poutine, aux éditions Premier Parallèle. C'est sorti cette année. Et enfin, nous sommes en ligne par téléphone, cette fois avec Cyril Brett, maître de conférence à Sciences Po Paris et co-auteur du blog eurasiaprospective.net. Bonsoir Cyril Brett.
Bonsoir.
Voilà, merci d'être à vous trois d'être avec nous ce soir. Vous êtes peut-être comme notre invité journaliste Alia Stroganova en train de regarder les dépêches qui tombent sur le début de cette rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Les deux chefs d'État se sont retrouvés il y a une petite heure. Ils ont eu le temps de faire un point presse avant de s'enfermer dans quelques instants pour parler en privé. Alors parmi les phrases qui sont ressorties de ce point presse, il y a Vladimir Poutine disant « La France est un de nos partenaires clés sur le territoire européen et ce depuis la lutte contre le nazisme ». Emmanuel Macron de plaider pour réinventer une architecture de sécurité et de confiance entre l'Union européenne et la Russie. On est encore dans cette novlangue diplomatique que j'évoquais en début de cette émission. Est-ce que, je voudrais savoir si vous, en tant que chercheur, journaliste, vous êtes vraiment dans une attente de quelque chose, s'il y a un sujet sur lequel vous pouvez vous dire peut-être que je serais surprise. Qui veut commencer sur cette question, Galia Ackermann?
Écoutez, franchement, je ne m'attends pas à grand-chose. J'ai regardé la conférence de presse et il faut peut-être parler d'abord de la gestuelle. On voit Emmanuel Macron tout près, souriant, qui regarde Poutine très attentivement quand Poutine parle. Et on voit Poutine, par moments presque ennuyé, ne regardant pas Emmanuel Macron quand c'est le tour de Macron de parler, et qui souligne surtout des aspects économiques des relations bilatérales. Parce que en Russie aujourd'hui, la doctrine dans la politique étrangère, c'est la géopolitique comprise très à l'ancienne, pas du tout comme Macron disait que voilà, il faut pas rester dans les stéréotypes des grands-mères, mais la géopolitique que professe, on peut dire, la Russie, c'est quelque chose qui ressemble très fort aux thèses de Carl Schmitt. Donc c'est même pas les grands-mères, c'est les arrière-grands-mères et c'est le temps de l'Allemagne nazie, c'est-à-dire la géopolitique comprise comme l'intérêt de l'État sans prendre en compte les intérêts des autres États. Et c'est uniquement régi par, je dis encore une fois, l'intérêt, pas du tout le respect mutuel, le respect du droit international, etc. Et donc, si on prend par exemple le dossier qui est crucial, la Russie veut la levée des sanctions, elle en a besoin parce que les sanctions empêche son développement normal, même si elle clame que ça ne l'affecte pas ou l'affecte très peu. Elle n'a pas accès à certaines technologies, dont notamment le forage dans les eaux profondes ou à la grande profondeur sur Terre, sur le continent. Mais elle n'est absolument pas prête à céder quoi que ce soit, c'est-à-dire on est par exemple dans la situation où Emmanuel Macron dit oui, on va parler, on va régler tout ça parce que si on règle le conflit ukrainien, on va pouvoir en fait réadmettre la Russie en G7 pour que ça devienne G8 et aussi lever les sanctions.
Alors, on va prendre Galia Akar. Maintenant, je voudrais faire réagir d'abord nos invités en plateau et par téléphone, si vous le voulez bien. Alia Stroganova, si on écoute Galia Akar, on est de toute façon dans un rendez-vous peut-être de convenance où chacun, Vladimir Poutine, d'après Galia Akar, a l'air de pas prêter une grande attention à ce qui est dit pendant cette conférence de presse. Peut-être est-il très concentré sur la traduction, je ne sais pas, mais en tout cas, chacun arrive de toute façon avec des formules toutes faites et on a l'impression qu'on sait déjà toute cette rencontre rien qu'en lisant les quelques pré-papiers comme on dit dans la presse et vous en avez sans doute rédigé pour RFI qui ont trait à cette discussion de ce soir.
Oui, c'est ça, en tout cas les annonces qui ont été faites lors de cette conférence de presse correspondent parfaitement à ce qui a été dit avant, notamment par les sources à l'Élysée qui ont abondamment parlé à des différents médias. Après, on aurait peut-être pu s'attendre à quelque chose qui soit dite comme c'était le cas il y a 2 ans lors de conférences de presse d'Emmanuel Macron et de Vladimir Poutine à Versailles lors de leur première rencontre.
Emmanuel Macron était allé assez frangeux en disant je ne souffre pas les déstabilisations qui viennent de Russie.
C'est sur ça, la notamment cette déclaration qu'il avait faite sur RT et Sputnik. Et là, on l'a vu très franc, très vigoureux sur ce dossier-là. Aujourd'hui, on l'a senti plus dans un rapport peut-être de séduction avec Vladimir Poutine, où il a repris les éléments de langage qui plaisent, on le sait, aux Russes en parlant de la Russie européenne, de l'Europe qui s'étend de Lisbonne à Vladivostok. Donc voilà, tous ces éléments qui sont importants pour les Russes et qui, je suis sûre, vont être très bien repris par les médias proches du Kremlin.
Donc si on résume, un Emmanuel Macron qui tâche de séduire Vladimir Poutine, Cyril Brett et un Vladimir Poutine qui vient de toute façon avec ses réponses peut-être déjà toutes faites ou pas ?
Je suis assez en désaccord en fait avec la présentation qui est faite de l'événement. Comme les autres intervenants, je n'en attendais pas une percée diplomatique qui résoudrait la crise en Syrie ou qui résoudrait la crise concernant le traité avec l'Iran. Mais la diplomatie est affaire de rituels, affaire de liturgie, affaire de répétition, affaire de symboles. Et là, les symboles qui sont donnés sont quand même assez forts. Il s'agit d'une rencontre informelle, le lieu s'y prête tout à fait, ça a été abondamment souligné. Et le temps, la date qui a été choisie juste avant le G7 montre l'importance que la présidence française accorde à la rencontre avec le président de la Fédération de Russie. Bien sûr, sur le contenu, nous n'obtiendrons pas ce soir la libération des marins ukrainiens, nous n'obtiendrons pas ce soir un retour à une situation normale concernant la souveraineté ukrainienne, mais la présidence française, Emmanuel Macron en premier, tire un bénéfice évident du fait d'être celui qui, au nom de l'Europe, dialogue avec à la fois son partenaire et son rival principal sur le continent, qui est le président russe. Le message qui est envoyé ce soir, aussi bien à l'opinion publique française qu'à l'opinion publique européenne, c'est que c'est Emmanuel Macron qui fait le sale boulot, qui parle avec le partenaire le plus difficile de l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, je pense que cette rencontre est riche d'enseignements pour l'évolution dans les mois qui viennent de l'ordre international.
Bertrand Badi allait dans votre sens ce matin dans les matins de France Culture au micro de Benoît Bouscarel. Il disait aussi que c'était un moyen pour Emmanuel Macron de se positionner en début de semaine d'ouverture du G7 comme ayant un accès privilégié à la Russie qui ne fait plus partie donc du jeu, en tout cas du G8, d'avoir des informations qu'il pourra ensuite transmettre aux collaborateurs. Galia Ackermann, la question de ce G7 auquel pourrait ou pas être à terme réintégrée la Russie en un G8 refondé, est-ce que finalement c'est une question qui intéresse Vladimir Poutine, lequel avait dit en 2014, quand il avait été exclu, qu'en gros il s'en moquait complètement et que ça ne changeait rien?
Il l'a répété d'ailleurs plus ou moins aujourd'hui, c'est-à-dire il a dit qu'il était prêt à réintégrer le G7 pour que ça se transforme de nouveau en G8, mais que le G20, où notamment participent les grands pays comme la Chine, l'Inde, etc., le Brésil, est plus important en somme que le G7. Poutine est intéressé, mais je ne crois pas qu'il puisse faire des concessions. Parce que, vous savez pourquoi il a été exclu quand même du G8 qui, de ce fait, est redevenu G7?
C'était en 2014,
donc l'annexion de la Crimée, et ensuite le déclenchement de la guerre dans le Donbass. Maintenant, on peut se demander, Emmanuel Macron a mentionné qu'on allait avancer sur la crise ukrainienne, mais jusqu'où on peut avancer? La marge de manœuvre telle qu'elle est définie par la Russie est très petite. La Russie ne va pas rendre la Crimée, il faut se rendre à l'évidence, la Crimée a été annexée, elle fait partie de la Fédération de Russie, c'est inscrit dans la Constitution, et donc la Russie en aucun cas ne va la rendre. Donc nous sommes déjà dans une partie qui est impossible à bouger. Maintenant, la deuxième partie, c'est le Donbass. Dans le Donbass, la Russie veut la fédéralisation de du Donbass, ce qui aurait signifié à terme l'éclatement de l'État ukrainien. Et en même temps, il n'y a aucune concession sur le contrôle des frontières par l'Ukraine ou sur l'admission des principaux partis ukrainiens à participer dans les élections dans le Donbass. C'est-à-dire, Vladimir Zelensky veut régler le problème.
Le nouveau président ukrainien.
Il veut arrêter la guerre dans le Donbass. Et la Russie, grosso modo, dit, OK, on peut peut-être le faire, mais avec nos conditions. Si nos conditions sont remplies, alors ça va marcher. Donc, vous voyez, c'est un peu une situation comme avec Israël et Palestine. On s'entend sur des choses secondaires, mais dès qu'on arrive
l'essentiel.
Au cœur du conflit, c'est-à-dire le destin de Jérusalem, c'est le point mort. Et je crains que ce soit pareil ici.
Alice
oui,
Roganova,
on peut peut-être avancer, faire des échanges de prisonniers.
Pour insister un petit peu,
Des changements cosmétiques. Mais la question est de savoir, et après, qu'est-ce qui va se passer après?
Et on insiste sur ce sujet, ce dossier ukrainien, Alia Stroganova, parce que sans doute que cette détente entre Moscou et Kiev est la clé de tout le reste. Et or, on entend Vladimir Poutine ce soir se dire d'un optimisme prudent après ses contacts avec le nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky, lequel pourtant avait plutôt donné de l'espoir à un règlement du conflit, puisqu'il n'a pas manqué d'appeler assez régulièrement Vladimir Poutine pour évoquer le sujet des prisonniers ukrainiens ou des prisonniers russes, et que, en tout cas, on avait l'impression qu'il pouvait se passer quelque chose. Est-ce que d'emblée, le fait que Vladimir Poutine se montre d'un optimisme prudent dès le début de cette rencontre avec Emmanuel Macron donne peut-être peu de chance à ce dossier ukrainien d'avancer un peu ce soir?
Moi, je suis assez d'accord avec Galia Ackermann que dès qu'on arrive au cœur du sujet, c'est vrai, on ne sait pas ce qui va se passer. La situation ukrainienne semble quand même au point mort où rien ne nous prouve et ne nous montre qu'elle puisse se débloquer. C'est assez évident. Et moi, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai lu, les Ukrainiens, par exemple, de leur côté, n'espère pas d'obtenir grand-chose par rapport à cette rencontre entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. On le voit avec justement la presse ukrainienne qui s'y désintéresse presque, en tout cas n'en parle pas beaucoup. Et
ni même comme quelque chose de honteux, elle n'en parle pas. Parce qu'elle aurait pu dire...
Si elle en parle, et évidemment, il y a toujours la situation en Crimée, l'annexion de la Crimée, qui on attend peut-être des déclarations fortes de la part d'Emmanuel Macron, mais tout en sachant que la situation ne bougera pas.
Et pourquoi pas, Cyril Brett, à l'occasion, pourquoi ne bougerait-elle pas la situation à l'occasion d'un de ces sommets à quatre sur l'Ukraine que Emmanuel Macron appelle de ses voeux ce soir, sur le format Normandie, comme on dit aujourd'hui, en référence au protocole, enfin aux accords qui avaient été élaborés, aux discussions qui avaient eu lieu en 2014. Voilà, c'est peut-être un moyen de commencer à dire qu'il y aura quelque chose. Est-ce que vous êtes un peu plus optimiste?
Je partage assez largement ce qui est dit sur les avancées concrètes qui vont pouvoir être trouvées. En revanche, il est très important que ce format Normandie et que tous les formats de discussion qui pourront associer bien sûr les grands acteurs géopolitiques du continent, mais aussi la nouvelle présidence ukrainienne à cette discussion, ne tombe pas dans l'oubli.
Et le format Normandie, c'est Russie, Ukraine, France et Allemagne.
Exactement. Et je pense que si sur le dossier ukrainien et le rétablissement de la souveraineté de l'Ukraine sur la Crimée, des avancées sont assez incertaines et il s'agit essentiellement d'une question de principe, je pense qu'il faut réenglober la discussion entre les deux présidents ce soir dans une discussion qui porte sur un certain nombre de sujets, Iran, Syrie, évidemment, organisation de la sécurité collective en Europe, et que les concessions qui sont faites sur certains des autres dossiers peuvent avoir des incidences sur le dossier ukrainien. Prenons un exemple. La France et la Russie sont d'accord, convergent pour faire vivre le traité qui visait à limiter les capacités nucléaires de l'Iran et divergent sur la situation en Ukraine. Eh bien, à part des échanges de bons procédés, des concessions mutuelles qui seront nécessairement limitées, les deux acteurs pourront graduellement faire avancer le dossier. Je pense qu'il ne faut pas avoir une approche maximaliste dans le dialogue entre France et Russie, entre Union européenne et Russie. Les divergences stratégiques, les divergences géoéconomiques et les différences aussi en termes de valeurs politiques sont telles qu'on ne peut que progresser sur des sujets qui sont limités, qui sont concrets.
Alors sur le dossier iranien que vous évoquez, on a deux présidents qui sont quand même plutôt d'accord. C'est quand même pas Vladimir Poutine qui va aider Emmanuel Macron à convaincre les États-Unis de baisser d'un ton vis-à-vis de l'Iran. Quel rôle peut jouer cette rencontre à Yastroganova? Quel rôle peut jouer la France, non pas comme médiateur dans la grande crise, mais peut-être comme intermédiaire? Et sur ce dossier-là, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut en attendre?
Par rapport à l'Iran.
Ou Galia Ackerman, oui, parce que sur la question iranienne, je crois que Galia Ackerman, vous vouliez réagir. Oui.
Écoutez,
Cyril Brett, attendez, parce que vous êtes tous à distance, c'est un peu compliqué. Cyril Brett, allez-y, et ensuite Galia Ackerman.
Excusez-moi, je suis désolé.
Non, je vous en prie.
Concernant le dossier iranien, des convergences manifestes entre France et Russie sont évidentes, notamment pour le respect de ce traité. Des divergences également apparaissent, notamment dans le soutien à l'Iran, en Syrie et dans tout l'arc moyen-oriental. Là, l'échange de bons procédés serait de la part de la Russie d'accepter de modérer son allié historique iranien et de la part de la France de se faire l'intercesseur de la voix iranienne auprès des pouvoirs publics américains. Là, en l'occurrence, l'important est pour la France de montrer que sa position, le respect du traité que Donald Trump a dénoncé reçoit l'approbation d'un autre membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est plus un rapport de force interne au Conseil de sécurité des Nations Unies qu'il faut envisager, plutôt qu'une convergence et une harmonisation des vues à l'échelon international sur l'Iran.
Galia Kerman, la Russie peut convaincre l'Iran de ne pas trop s'affranchir des règles de l'accord nucléaire de 2015, même si les États-Unis, eux, s'en sont retirés. Elle peut jouer ce rôle-là.
C'est pas tout à fait évident. En fait, la relation entre la Russie et l'Iran est assez complexe parce qu'il y a plusieurs volets. D'une part, la Russie est un très ancien partenaire de l'Iran et lui livre des équipements militaires et des armements assez sophistiqués. Ils sont en contact avec les Iraniens sur le sol syrien. En fait, l'opération du soutien au régime d'Assad a été menée conjointement par les troupes iraniennes présentes au sol et l'armée russe présente surtout dans les airs. Maintenant, dans le dossier syrien, la Russie peut peut-être jouer un rôle modérateur, surtout qu'elle est aussi en contact très étroit avec Israël, et Israël est un allié très précieux pour la Russie, parce que à l'époque des sanctions, pratiquement le seul pays occidental qui ne participe pas à ces sanctions, c'est justement Israël. Maintenant, pour ce qui concerne le nucléaire, la Russie a probablement pas trop l'intérêt que l'Iran développe ses capacités nucléaires parce que c'est très proche, je dirais, des frontières russes et de certaines régions russes. Est-ce qu'ils sont en état de le faire? C'est une question qui est ouverte. On ne sait pas trop, justement. Mais je conçois que sur le dossier iranien, il peut y avoir des positions plus ou moins communes entre la France et la Russie, ou la France et l'Union, ou la Russie et l'Union européenne en général, parce que les deux considèrent qu'il faut garder cet accord, alors que les États-Unis ne veulent pas sa préservation maintenant. La question de savoir, comme il y a les sanctions américaines et comme pour beaucoup de sociétés européennes, il est préférable d'obéir aux sanctions, de ne pas commercer avec l'Iran, etc. Est-ce que on peut sauver cet accord? C'est pas du tout sûr, avec la Russie ou sans la Russie.
Vous évoquiez le dossier syrien, qui est évidemment une des grandes questions auxquelles a affaire aujourd'hui et la diplomatie européenne, sans compter bien sûr les civils sur place, mais là on parle vraiment de la diplomatie. Emmanuel Macron a commencé la rencontre en disant à Vladimir Poutine qu'il était impérieux que le cessez-le-feu soit respecté à Idlib en Syrie, quand Moscou de son côté dit que voilà, l'ONU exagère les frappes russes sur Idlib, en disant que à chaque fois qu'il cherche à vérifier des frappes indiquées par l'ONU sur tel hôpital, telle école, eh bien ils se rendent compte que c'était une information fausse, que c'était pas la bonne date. Bon, bref. Donc y a là-dessus, la Russie essaye de peut-être minimiser ou se justifier sur sa présence aux côtés des forces de Bachar al-Assad. Mais ce dont il est question maintenant, Cyril Brett, c'est la reconstruction du pays aussi, se placer dans l'avenir de la Syrie et le périmètre de discussion avec Bachar al-Assad. Et là, jusqu'où la Russie peut-elle mener la danse?
Alors, en ce qui concerne la Russie, en ce qui concerne la Syrie, c'est la Russie qui a la position de force, et c'est plutôt la France qui a besoin de modérer, en fait, l'action de la Russie. Vous avez raison, la question qui se pose maintenant, malheureusement, après des dizaines de milliers de morts en Syrie, c'est celle de la solution politique et de la reconstruction du pays. Et là, sur la solution politique, les formats proposés par la Russie ont échoué pour le moment. La Russie a essayé de proposer des formats de discussion qui soient autonomes avec la Turquie et les autres grands partenaires de la région. Et pour l'instant, aucun résultat n'est apparu. Et en ce qui concerne la reconstruction économique et les investissements financiers qui sont nécessaires, là encore une fois, la Russie n'a pas la capacité seule, et n'a pas la capacité régionale non plus, de réaliser cette reconstruction. Et c'est donc là que la position de force de la Russie, conquise les armes à la main à partir d'août 2015, peut s'infléchir la Russie va avoir besoin de partenaires internationalement crédibles et financièrement solides pour pouvoir reconstruire la Syrie. Toute la question, c'est de savoir si c'est la Chine, et donc une puissance non européenne et une puissance externe à la région, qui va prendre le leadership sur la question, ou si les Européens vont être capables, par un dialogue nourri et exigeant, c'est-à-dire difficile et dur avec la Russie, de se réinviter dans le jeu dont ils ont été assez largement exclus.
Voilà, donc on en vient petit à petit à ce sujet majeur, c'est-à-dire l'Europe a-t-elle besoin de la Russie, et notamment sur ce dossier syrien, mais comme sur beaucoup d'autres, alias Stroganova, on a l'impression que Emmanuel Macron, en l'occurrence, qu'il ne faut plus peut-être voir cette rencontre comme une rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, mais comme une rencontre entre l'Europe et la Russie pour avancer ensemble sur des grands sujets, des grandes questions internationales où l'Europe est en train progressivement de quitter le jeu, quoi, et où elle veut se ressaisir.
Oui, en tout cas, Emmanuel Macron se positionne en tant que représentant de cette Europe démocratique, en tant que porte-parole de cette Europe. Et il compte, j'imagine, de jouer un rôle de leader dans les relations avec la Russie. Et on voit qu'il a un boulevard devant lui pour le faire. Ensuite, que sa marge de manœuvre, comme ça vient d'être dit, est très limitée. Donc, au-delà de ces déclarations qui restent quand même assez vagues, on ne sait pas concrètement ce qui va se passer.
Vous, Galia Akerman, en qualité d'historienne, votre regard sur cette rencontre, comment vous l'entendez? Comment vous l'observez? Est-ce une rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine? Ou une rencontre entre la France et la Russie? Ou même entre l'Europe et la Russie? Au-delà des hommes.
Ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas la première rencontre, bien sûr, loin de là, entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Et jusque-là, je ne vois pas que Emmanuel Macron ait réellement obtenu des concessions quelconques de la part de Poutine. Je vous rappelle la rencontre qu'a évoquée Agnès Stroganova en 2017, à Versailles, quand Emmanuel Macron, sur un ton vif, c'était bon réponse à une question, il n'a pas intentionnellement préparé cette réplique, mais il a dit quand même qu'il ne considère pas Russia Today, RT et Sputnik comme des médias normaux, mais comme des organes de propagande. Poutine a avalé cela, il n'a rien dit, et on a vu que son visage a un peu changé, la mimique était assez intéressante, mais il n'a rien dit. Seulement, qu'est-ce qui a changé presque deux ans plus tard? RT et Sputnik sont plus populaires qu'il y a deux ans, quand ils venaient seulement de commencer à émettre en France, et
plus
ils sont
ou en Russie,
toujours
ou en France.
Des organes de propagande. Maintenant, pour votre question, est-ce que Emmanuel Macron représente l'Europe? Il veut représenter l'Europe parce que il organise le G7, c'est la présidence française au G7, et donc il aimerait arriver au G7 avec des résultats concrets qui proviennent de cette rencontre en tête-à-tête avec Vladimir Poutine. Mais on ne sait pas s'il y a des réactions, s'il y a vraiment du progrès dans différents domaines dont ils ont parlé. Ce que j'observe en effet en tant qu'historienne, c'est que la Russie ne reconnaît jamais ses torts et que la Russie ne bouge pas de ses positions. On l'a vu sur la Crimée, on l'a vu dans la pratique sur l'Ukraine, on l'a vu avec le soutien indélébile à Bachar el-Assad, on l'a vu beaucoup plus récemment avec le soutien à Maduro. La Russie n'a pas reconnu l'empoisonnement des Skripal, elle n'a pas reconnu l'ingérence
de l'ancienne nation russe,
américaine et européenne, c'est-à-dire la Russie campe sur ses positions et on n'a qu'à les accepter pour aller, entre guillemets, de l'avant ou continuer. Donc là, une sorte de confrontation. C'est ça le gros problème. Poutine n'est pas malléable et il a des idées très tranchées sur ce que la Russie veut obtenir Et si on veut jouer avec lui, on joue dans ces termes où on ne joue pas.
Alors Cyril Brett, ça pose, voilà, c'est un vrai dilemme que pose Vladimir Poutine à la France et à l'Europe, Cyril Brett. C'est-à-dire comment on fait pour, voilà, on entend dire qu'il faut affirmer une Europe plus forte, notamment face à Donald Trump, que ça ne peut se faire qu'avec la Russie. Il y avait récemment cette tribune dans Marianne de la chercheuse Caroline Galacteros qui disait que se rapprocher de la Russie n'a jamais été aussi urgent pour la survie de l'Europe, survivre en dessous du niveau tête sino-américain, etc. Mais quand Vladimir Poutine impose ses lois, d'après ce que nous dit Galia Ackermann.
Alors, je pense que la question est essentielle est posée dans le titre de votre émission. L'Europe a-t-elle besoin de la Russie? Mais je pense que la question symétrique est essentielle et la Russie a immensément besoin de l'Europe, ne serait-ce que pour pouvoir se financer. Une bonne moitié du budget fédéral russe et donc de l'effort d'armement russe dépend des exportations d'hydrocarbures vers l'Europe. Et les exportations d'hydrocarbures vers la Chine sont loin d'avoir remplacé les exportations d'hydrocarbures vers l'Europe.
Mais elles pourraient augmenter dans l'avenir proche.
Elles le peuvent, mais elles ne l'ont pas encore fait. Pour l'instant, c'est la Russie qui a besoin des investissements, des technologies, des ingénieurs, également des devises européennes, et ça n'est pas l'inverse. Vous avez raison d'insister sur le fait qu'il y a une immense dissymétrie. L'Union européenne n'a pas de politique russe. La Russie a, depuis très longtemps, la même politique européenne divisée pour régner. Et c'est pour cette raison que Emmanuel Macron, profitant du fait que la nouvelle Commission européenne n'est pas installée, que le nouveau Premier ministre britannique ne s'occupe que du Brexit, du fait qu'Angela Merkel est sur le déclin, prend le flambeau européen pour pouvoir parler avec Vladimir Poutine dans des termes qui sont effectivement d'un vague qui ne permet pas d'établir un rapport de force suffisant, mais au moins il s'agit d'une pierre, de la troisième pierre après la rencontre de Versailles et la rencontre de Saint-Pétersbourg, pour pouvoir établir un dialogue avec la Russie qui soit exigeant. L'avenir de l'Europe ne dépend pas de la Russie. En revanche, il s'agit de faire sentir à la Russie que son avenir, son propre avenir, dépend, et notamment l'après-Poutine, dépend très profondément de son arrimage à l'économie et aux structures institutionnelles de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. C'est ça, je pense, le message à faire passer qui est en train d'être passé par le président français.
Alia Stroganova, et sur la réception aussi qu'en a aujourd'hui l'Europe avec ses nouvelles têtes qui sont en train de s'installer, qui ont jusqu'au mois d'octobre pour s'installer, mais comme si on pouvait peut-être remettre les compteurs à zéro dans une relation Europe-Russie un peu différente, un peu plus à l'avantage de l'Europe qu'aujourd'hui.
Alors que la Russie, justement, avec ses élections européennes, comptait d'avoir beaucoup plus d'alliés au sein de ce Parlement européen en misant justement sur ces partis d'extrême droite ou d'extrême gauche, en tout cas les partis populistes anti-européens. Et on a vu que ça s'est pas passé comme on avait pu le lire dans les médias russes. Et pour rebondir à ce qui était dit avant, je voulais juste ajouter que je pense qu'on se rend peut-être pas compte tout à fait en France ce qui se passe actuellement en Russie, où il y a une vague de manifestations sans précédent depuis 7 ans. Et on voit Vladimir Poutine sur l'échiquier international, on le voit comme un leader fort et qui est en position de force par rapport à l'Europe et par rapport à la France notamment, alors que sa popularité en Russie est en train de baisser. C'est pas dramatique, mais c'est quand même en train de baisser. Et donc si on regarde dans la perspective de longue durée, il n'est pas aussi populaire qu'il l'était avant.
Pour vous, ces manifestations sont vraiment révélatrices d'une baisse de popularité.
D'une baisse de popularité et du changement de la situation en Russie actuellement, parce qu'on voit cette nouvelle génération qui a émergé, qui a grandi sous Vladimir Poutine, qui n'a pas connu d'autres présidents, d'autres leaders et qui ne comprend pas qu'on puisse agir avec ces vieilles méthodes. Donc je pense qu'il faut aussi regarder dans ce contexte global ce qui est la situation actuelle de Vladimir Poutine, vu cet angle de la politique intérieure.
Et avec un régime, celui de Vladimir Poutine, qui paraît, Galia Ackermann, un peu, est-ce qu'on pourrait dire apeuré, mais qui semble craindre quand même ces manifestations, parce que, si j'ai bien compris, les élections auxquelles ont été empêchées de participer une 60aine de candidats indépendants dans des élections locales sociales du 8 septembre et qui ont occasionné ces manifestations-là, elles ne sont pas non plus d'une importance telle qu'elles méritaient, le méritent-elles de toute façon, mais une réaction peut-être un peu disproportionnée de Vladimir Poutine face à des manifestations qui concernent des élections qui ont assez faible enjeu, en fait. Le Parlement moscovite, il a très peu de pouvoir par rapport à la mairie de Moscou. Or, c'est le Parlement de Moscou qui sera élu début septembre.
Vous savez, c'est un peu plus compliqué que ça.
J'imagine.
D'une part, je ne suis pas persuadée que le début des manifestations et le début de la répression, que ça a été vraiment l'initiative du Kremlin. Parce que, en fait, Moscou, c'est le poumon financier de la Russie. Il y a 85% de tout l'argent de la Fédération de Russie qui transite par Moscou, et beaucoup d'argent qui est brassé à Moscou. Il y a des projets immobiliers énormes initiés par la mairie de Moscou. Et donc, la mairie de Moscou ne veut pas que l'opposition, excusez-moi l'expression, fourre son nez dans les comptes, parce que justement une partie de ces candidats indépendants qui n'ont pas été validés par la commission électorale de Moscou étaient des gens liés à Alexei Navalny, l'opposant notoire qui lui-même est empêché de se présenter aux élections. Je rappelle qu'en 2013, il a participé aux élections face au maire actuel et qu'il a eu quand même 30% des suffrages. Et donc, lui, il préside le fonds de la lutte contre la corruption. Et bien sûr, pour les candidats qui sont en lien avec ce fonds et avec Navalny, il serait très préjudiciable pour la mairie de Moscou que ces candidats aient accès au dossier, disons, sensible.
Donc c'est un peu plus important qu'on peut en avoir l'impression de l'extérieur. D'accord.
Voilà, donc c'est une élection importante. Moscou, c'est la ville d'où part toujours toute la contestation, et le fait qu'après quelques années d'intervalle, quand l'opposition a été totalement maîtrisée, si l'on peut dire, qu'on assiste à une nouvelle vague de manifestations, c'est une chose importante. Pourtant, je n'aurais pas exagéré l'importance de ces manifestations. Elles sont complètement légitimes. L'accès aux élections devrait être assuré pour ces candidats indépendants. Il ne le sera pas. Vous savez, les élections, c'est déjà le 8 septembre. On est fin août.
Alors.
Donc, rien ne sera fait. Vladimir Poutine a très gentiment, entre guillemets, a rappelé à Emmanuel Macron qu'il n'a pas de leçon à lui donner, parce que nous avons eu notre mouvement des Gilets jaunes avec quelques dispersion violente.
Voilà, ce qui n'a pas empêché. Oui, ce qui n'a pas empêché Emmanuel Macron d'appeler donc ce soir au respect de la liberté d'expression, au respect de se présenter à des élections en Russie. Il était obligé, il sentait un petit peu obligé de le dire aussi. Forcément, on l'attendait au tournant, mais comme l'émission avance, on arrive bientôt au terme. Je voulais avancer sur cette question-là, c'est celle de la démocratie libérale sur laquelle pour l'instant ne s'entendent pas visiblement Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Ce tacle récent dans le Financial Times du président russe qui dit que l'idée libérale est obsolète, qu'elle est entrée en conflit avec les intérêts de l'immense majorité de la population. Cyril Brett, est-ce que déjà Vladimir Poutine et Emmanuel Macron s'entendent sur les mots? Est-ce que ça veut dire la même chose en France et en Russie, démocratie libérale? Et ensuite, l'alternative de Vladimir Poutine, c'est quoi? Qui pourrait faire en sorte que peut-être ils arrivent à s'entendre sur cette Europe que vous appelez de vos voeux, je ne sais pas, mais une Europe plus forte avec la Russie?
Les deux présidents ne sont d'accord ni sur les mots, ni sur les choses. Ils ne sont d'accord ni sur les valeurs sur lesquelles doivent être construites un État, une société, ni sur la façon de les désigner. Le régime de Vladimir Poutine est un régime qui est autoritaire et qui le revendique. C'est le maître du moment, et c'est le maître du moment depuis deux décennies. Toute la question maintenant est de savoir quel sera l'avenir de la Russie en 2024 à l'issue de ce quatrième mandat présidentiel de Vladimir Poutine. Et pour le moment, aucune solution de rechange n'a été donnée. D'où l'insistance sur la religion, d'où l'insistance sur les valeurs familiales, les valeurs traditionnelles, comme si la Russie essayait de trouver une idéologie de substitution qu'elle a perdue au moment de la fin de l'ère soviétique et qu'elle peine encore à trouver. Là, pour le moment, le régime de Vladimir Poutine est fort dans les urnes, dans la rue, dans les institutions.
Malgré les manifestations, alors.
Malgré les manifestations, tout a été dit sur leur ampleur et aussi leurs limites. Mais c'est un régime qui est confronté à l'absence de perspective. Et c'est là où la lecture générationnelle est très intéressante. Ce sont des quarantenaires qui contestent un soixantenaire qui a construit un pouvoir depuis deux décennies et qui, au-delà de l'horizon 2024, n'est pas capable de dire à son pays « voilà ce que nous serons ». Voilà où nous allons, et voilà ce qu'est la Russie, voilà ce qu'est un Russe en 2050. Il n'est pas capable de se projeter, il est capable de maîtriser le présent. Et c'est là où les manifestations contre la corruption, contre l'absence de liberté d'expression, contre les difficultés administratives faites régulièrement à l'opposition pour se présenter aux élections sont essentielles. Il s'agit de prendre date pour l'avenir. Donc, la portée de la contestation actuelle ne porte pas seulement sur les élections municipales de septembre, elle porte sur l'avenir du pays et sur l'après-Poutine, car ce régime n'est évidemment pas éternel.
Et pas capable de se projeter, dites-vous, ce qui est d'autant plus surprenant, Galia Ackermann, qu'on dit que ici en France, on pense en termes de quinquennat, alors qu'en Russie, on parle en termes de génération, et que ce serait aussi une des raisons pour laquelle cette rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se ferait peut-être un peu comme un dialogue de sourds. Mais est-ce qu'on peut réussir à se projeter au-delà et du quinquennat d'Emmanuel Macron et du mandat de Vladimir Poutine sur la question vraiment de cette relation Europe-Russie et de ce qu'elles peuvent construire ensemble?
Je pense que malheureusement, en 2024, le régime de Poutine ne va pas être terminé, qu'il reste aux commandes ou qu'il cède le poste du président et en assume un autre. Récemment, un proche de Vladimir Poutine, qui est une éminence grise du Kremlin, Vladislav Surkov, qui a longtemps été son conseiller, a publié un papier où il disait que le poutinisme, c'est-à-dire un mode de gouvernement ouvertement populiste avec le lien direct entre le dirigeant et le peuple et toute la verticale du pouvoir qui dessert ce lien, que c'est l'avenir de la Russie pour 200 ans, 300 ans, et que c'est aussi à terme l'avenir de l'humanité. Je pense que malheureusement, bon, j'espère que ce n'est pas l'avenir de l'humanité, mais j'ai comme l'impression que, à moins qu'il y ait de grandes catastrophes quelconques qu'on ne peut pas prévoir, bien entendu, c'est un régime qui va se perpétuer comme ça s'est passé en Azerbaïdjan, comme ça se passe en Biélorussie, comme ça s'est passé au Kazakhstan. Les exemples dans l'espace post-soviétique, ou plus exactement post-communiste, parce que les pratiques soviétiques perdurent toujours, les exemples sont assez nombreux. Dans ce sens, je pense que Poutine, même s'il a maintenant, en effet, il a une popularité moindre qu'au moment de l'annexion de la Crimée, quand c'était l'apogée, il est capable de sortir un lapin de son chapeau quand il le faut pour rehausser cette popularité. C'est mon sentiment.
Est-ce que le lapin, et pour conclure, Alia Stroganova, peut s'appeler la Chine, puisque l'enjeu est aussi pour l'Europe de détourner le regard de la Russie vers la Chine et de le ramener un peu vers l'Europe. Est-ce que la relation Russie aujourd'hui, c'est une relation de coopération, un rapport de dépendance et donc à terme un rapport de subordination? Est-ce que la Russie a un avenir en Chine?
La Russie a peut-être un avenir en Chine, en effet, mais la Chine est beaucoup plus forte que la Russie. Là, le rapport de force, il n'est pas du tout comparable à ce qu'on...
Il n'est pas du tout en faveur de la Russie pour l'instant.
Bien sûr.
En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir pour en parler, Alia Stroganova, ainsi qu'à vous, Cyril Brett, et vous, Galia Ackermann. Bonsoir,
merci.
Dont je rappelle le titre de votre dernier livre, Le Régime Immortel, la guerre sacrée de Poutine aux éditions Premier Parallèle. Merci à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Stéphanie Villeneuve, Alia Tovin, Léa Capuano, Valentin Berg et Roxane Poulain. L'émission a été réalisée par Milena Elig avec à la prise de son Cindy Legrumelec. Bonne soirée à tous, dans un instant, Matière à penser.